vos désirs sont des ondes. Est-ce que c'est la sérendipité ou un heureux accident qui fait que tu te retrouves à notre écoute en ce moment? Est-ce que tu ressens vaguement qu'il y a une opportunité à être ici, maintenant? Par l'écoute qui va suivre, tu engages peut-être ta propre créativité. Vos désirs sont des ondes et vos ondes sont de la musique. Les artistes le savent, qui créent des œuvres qui nous interpellent, nous font bouger, nous amènent ailleurs. Ce que mon désir brave, mon désir le conquiert. Et c'est un heureux hasard qui te fait rencontrer l'artiste d'aujourd'hui. Quelle sera ta découverte? Vos désirs sont des ondes. Première partie d'une entrevue avec Elliott Maginot, musicien et auteur dont le plus récent album, Easy Morning, a été l'occasion de rencontres inédites, prolifiques, hors de l'ordinaire, certaines de ces rencontres ardemment souhaitées, comme des désirs, d'autres dues au hasard, comme le résultat d'une sérendipité stimulante. Alors, on commence tout de suite, Elliott Maginot, bonjour. Comment
bonjour.
Ça va?
Ça va bien, toi?
Ça va très bien, merci.
Yes.
C'est fun de te voir, c'est fun de te rencontrer. Tu es un peu comme un personnage mystérieux pour moi. Oui, assez mystérieux. Ton âge, ton look, ton nom, ta musique. OK, là, je viens de te faire un espèce de portrait de ce que tu représentes.
C'est les quatre pôles de mon identité.
C'est ça. On va parler de tout ça dans cette entrevue que tu as la gentillesse de m'accorder pour pouvoir connaître un peu ce personnage-là, parce que c'est quelqu'un qui évolue sur la scène montréalaise présentement et bien d'autres scènes d'ailleurs, mais montréalaise parce que c'est chez nous, puis c'est intéressant de voir, d'interviewer un artiste comme toi, qui, ma foi, produit avec un rythme assez régulier depuis maintenant 6 ans, 7 ans.
Oui, à peu près.
A produit 3 disques, s'est manifesté dans beaucoup d'événements, a fait des tournées, j'ai pu voir ça dans tes biographies. Ça fait que, parlons donc de ça un peu, ça fait combien de temps que tu fais de la musique comme telle?
Bien, ce projet-là, je pense qu'il a vu ses premiers balbutiements peut-être autour de 2012, quelque chose comme ça, là, c'était pendant les grandes manifs. C'est peut-être là où j'ai écrit mes premières chansons, fait mes premiers spectacles. Donc, je dirais que le début d'Elliott Maginot, c'était en 2012.
OK. Tu parles d'un projet quand tu parles d'Elliott Maginot.
Ouais, mais je ne sais jamais trop comment nommer ça. Je ne sais jamais si c'est moi ou si c'est le projet, c'est ma musique. C'est quelque chose auquel on réfléchit pas trop au début, puis sur lequel on est amené à réfléchir à mesure qu'on développe notre propre identité, puis notre place dans le monde, puis notre place sur, l'échiquier de la scène montréalaise. Oui. Je ne sais jamais trop comment l'adresser. Clairement, ce n'est pas un secret pour personne que ce n'est pas mon vrai nom.
Non, c'est vrai. C'est mentionné à plusieurs endroits dans des articles que tu as donnés. Ton vrai nom, c'est Gabriel Élie Harvey.
Oui, exactement.
Et tu es natif de quel endroit?
Saint-Hyacinthe.
Saint-Hyacinthe, OK.
Ouais.
Tu vois, Elliott Maginot, moi, je pensais que tu étais français. Je ne t'entendais pas parler en français. Je ne t'avais pas entendu parler. Puis au début, j'ai dit, ça doit être un nom français, ça, Maginot. Le look, là, tout ça, avec... les cheveux, tout ça, je me dis ça doit être un français.
Ben, c'est un nom français, effectivement. Je pense pas qu'il y ait de Maginot au Québec. Mais après ça, c'était pas non plus c'était pas un hommage réfléchi ou conscient à la France, même si c'est un pays que j'adore. Puis tout, c'est vraiment un nom de plume, un nom de baptême comme je te disais tantôt, pour lequel j'ai pas trop réfléchi. On fait des trucs spontanés puis tout, puis après ça, on est comme « Ah, mais il va falloir que je le justifie pour les 15 prochaines années maintenant.
» Ben là, tu viens de mettre une parenthèse en disant « Mais c'est un projet. » Alors, j'ai l'impression que le personnage Elliott Maginot pourrait être éventuellement un jour mis de côté ou...
Oui, je pense que oui.
Tu pourrais passer, toi, à un autre personnage ou à une autre étape de ta carrière. C'est un peu comme ça que ça semble
jamais le mettre de côté parce que je suis trop reconnaissant de ce que ça m'a permis de faire, de ce que ça me permet encore de faire, mais c'est sûr qu'éventuellement, je vais avoir envie de faire de la musique en dehors de ça, en dehors de Elliott Maginot, puis de
Les artistes font ça, c'est vrai. C'est un droit légitime, dans le fond,
Tout à fait.
c'est une forme d'expression, un artiste, et c'est des choses qu'on veut véhiculer. Et toi, tu es plutôt personnel, tu es plutôt, on t'écoute et on a l'impression que c'est toi, très souvent, qui parle à la première personne, là. Je lisais dans un des articles que tu te questionnais beaucoup, tu parles beaucoup des relations humaines, ça. On en parlera un peu plus loin, là. Tu parles beaucoup des êtres humains autour de toi et c'est comme une préoccupation et ça peut paraître complexe des fois pour toi.
Ben, c'est la source de tous les bonheurs et tous les malheurs, là. Je sais pas ce qu'il y a d'autre dans la vie à part les relations humaines, là. Tout le reste est un. Tout ce qu'on fait en dehors des relations humaines sont des trucs qui nous permettent de continuer à exister pour pouvoir avoir des relations humaines, tu sais. Je veux dire, on travaille pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir continuer à avoir des relations, dans le sens que je vois pas ce qu'il y a d'autre. Je vois pas de quoi on peut parler d'autre que les relations humaines. Fait que pour l'instant, c'est mon seul filon pour
C'est
l'instant.
ton filon, mais écoute,
J'en ai pas trouvé d'autres encore.
Ça t'honore, ça participe de la personne de ce que tu es. Et ça, moi, personnellement, ça te rend particulièrement intéressant parce que c'est des choses qui me touchent moi aussi. Continuons sur ta carrière, OK? Parce que j'ai fait une petite parenthèse, on a vite glissé vers des sujets dont on va parler un peu plus loin, mais tu lances Elliott Maginot, ce projet-là, en 2012, tu disais.
Ouais.
Est-ce que je peux te demander ton âge? Si c'est pas indiscret.
Non, c'est pas indiscret, j'ai 32 ans.
32 ans, OK, parfait.
Ouais.
Donc, en 2012, tu avais à peu près quoi?
J'avais 23, 22. On est en 2021, ouais, j'avais 22. Ouais.
22 ans. Alors, c'est comment, c'est jeune pour commencer aujourd'hui ou dirais-tu?
Jeune, je sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui commencent, qui à 8 ans savent déjà qu'ils vont être des musiciens, qui sont déjà en train de peaufiner leur son, qui sont déjà en train de créer leur univers. Je pense que j'ai pas commencé sur le tard comme un Leonard Cohen, je sais pas trop, mais on dirait que quand j'y repense, je me dis que j'aurais dû mettre du temps là-dedans avant, certainement. J'aurais dû jouer plus, j'aurais dû m'intéresser à plus de trucs. Je sens que ça aurait été un bel outil pour traverser l'adolescence. Ça aurait été un bon compagnon d'avoir la musique et d'avoir la création plus jeune.
OK.
Ouais, certainement. Je trouve que en tout cas, dans le milieu scolaire où moi j'ai grandi, il y avait absolument aucune emphase ni sur la musique, ni sur l'art en général, encore moins sur la création. C'était complètement tassé de côté. C'était les sports et les études, puis c'est tout. Puis je sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui en ont pâti, entre guillemets. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient pu bien utiliser c'est l'outil merveilleux qui est la musique et la création. Fait que je trouve que ça devrait être généralement plus répandu, plus encouragé, plus valorisé, puis que les jeunes devraient sauter là-dedans dès que c'est possible, au plus jeune âge possible, certainement.
C'est intéressant ce que tu dis. Ça n'empêche que ton premier disque, qui est sorti à 22 ans, pour moi, qui est un âge assez jeune pour produire des choses, est avec une proposition artistique assez mature, assez complète,
Ben,
déjà définie.
Ouais, ben le premier disque, il faut le dire, là, c'est pas entre le moment où j'ai créé ce projet-là, puis j'ai commencé à jouer, puis la sortie du premier disque, il y a quand même un 4 ans qui s'est déroulé. Tu sais,
Oui, OK.
le temps que. C'est ça, le premier disque est sorti en 2015, donc on a dû l'enregistrer en 2014. Ouais, fait qu'il y a eu un 2-3 ans là, de peaufinage, puis de juste apprendre à faire ça. C'est un métier qui a beaucoup de. Il y a beaucoup d'aspects, il y a beaucoup de trucs à apprendre, il y a beaucoup de choses à maîtriser, il y a beaucoup de...
Tellement, tellement. Et tu le fais si bien, dans un sens. Et c'est comme un peu, d'après le récit que tu en fais là présentement, apparu comme out of nowhere. Est-ce que je me trompe? C'est tout à coup apparu en disant,
C'est...
hey, j'ai ça de la musique en moi, je vais faire de quoi avec ça?
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment la petite histoire que j'ai contée souvent, là, mais c'est vraiment mon frère qui est tombé. C'est ça, j'avais une guitare qui traînait chez moi, puis tout, puis je me suis mis à... Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis tourné vers ça, j'ai commencé à écrire des petits trucs, des petites idées, des trucs, puis c'était juste des mémos vocaux que j'avais dans mon téléphone, ou même pas dans mon téléphone, j'avais pas de téléphone à l'époque, là, c'était mon iPod, là, ou mon truc MP3, puis
Oui.
mon frère qui me l'avait emprunté est tombé là-dessus par hasard, puis c'est lui qui a fait comme « Hey, t'sais, fais quelque chose avec ça, là,
Fais
faut...
quelque chose. Ah, c'est
Ouais.
fou.
Ouais, mais avant ça, c'était pas. Évidemment, j'étais un fan de musique comme tout le monde, puis j'étais un grand consommateur de musique, puis ça faisait partie de ma vie comme auditeur, là, comme fan de musique, mais c'était jamais quelque chose que j'avais eu, auquel j'avais pensé. Puis une fois que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, ben ça.
Ça a
Il
déboulé,
était
ça.
trop tard.
Ça a changé ta vie.
Ben oui, ça a changé. C'est
Ça a
devenu ma
peuplé
vie, en
ta
fait.
vie.
C'est pas juste que ça a changé ma vie, c'est que c'est. C'est toute ma vie. Là. Je pense que tous les musiciens qui font ça beaucoup te diront la même chose, mais ça devient toute ta vie, ça devient ton identité, ça devient tes amis, ça devient souvent tes relations amoureuses. Tout tourne autour du
Ben
monde de la
oui,
musique. Tes
ben oui,
pensées, t'es toujours là-dedans. Puis en plus, quand ça devient ta job, ben là, l'aspect financier rentre là-dedans. Fait que ça devient. Tout est en fonction de la musique, ça, aussi la manière dont tu. Je sais pas comment dire, dont tu traites ton corps. Disons moi, j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans, puis je sais que j'aurais jamais arrêté de fumer si c'était pas de l'inquiétude que j'avais pour ma voix. T'sais, fait que
ouais.
ça devient une manière aussi de traiter ton corps, de traiter ta tête aussi, puis tout. Fait que ça devient toute ta vie, tout ton univers. Ce qui
Oui,
peut être
c'est...
un peu malsain des fois, là, d'avoir tous ces œufs dans le même panier, mais pour l'instant, c'est ça qui fonctionne.
Ben, plus ou moins, si c'est ce que tu es, dans le fond, la réalité, c'est que c'est ça. De t'entendre aussi parce que tu parles de ce que tu fais comme d'un métier et pas forcément comme de quelque chose. Tu sais, c'est glamour d'être un artiste. Hein? C'est quelque chose d'être apprécié comme moi. Je t'arrive puis je te dis j'aime ton disque, j'ai écouté tes disques, tout ça. On va parler de ça pendant tout ce temps-là. Mais bon, j'ai très bien entendu le côté rêveur qui nourrit l'artiste chez toi, puis on va en parler de ça. Mais je t'écoute, puis tu es très pragmatique, tu es très concret, tu as les deux pieds à terre. Tu ne parles pas de ce métier-là comme étant quelque chose de vaporeux. Ou de...
Ben, c'est très concret puis très dur la plupart du temps, dans le sens que j'adore ce que je fais, je suis tellement reconnaissant. Mais le côté glamour que tu mentionnais, c'est tellement, non seulement c'est tellement inexistant dans les faits, dans la réalité, puis c'est aussi très dangereux d'y croire, puis d'embarquer là-dedans, puis de penser que parce que des gens te disent que t'es bon, t'es vraiment bon. Je pense que c'est un aspect dont il faut vite se débarrasser, puis de voir ça comme quelque chose de voir ça comme quelque chose de pas plus ou moins important qu'un plombier ou qu'un cuisinier ou qu'un assis. C'est pas comme si on dirait que j'haïs la survalorisation des artistes qui ont du succès, ou je sais pas trop, comme s'il avait fait un sacrifice ultime pour rendre service à la race humaine, alors que tout le monde le fait pour son ego, tout le monde le fait pour son propre remplir son propre vide. Il n'y a personne qui va là en disant « Ah, je ne le ferai pas, mais je sens que j'ai quelque chose à offrir à la race humaine. » C'est complètement... Puis c'est ça. Puis le fait est que 90% de ce métier-là, c'est aussi de la gestion d'horaire, transporter du matériel. Ce métier-là est extrêmement terre-à-terre. T'sais, faire de la route dans une vanne, réparer tes trucs, aller chez l'outil. Après ça, il y a le petit 10% où tu fais de la musique, mais c'est puis encore là, pendant que tu fais de la musique, concrètement, pendant que tu fais des spectacles, c'est aussi beaucoup gérer des problèmes techniques, gérer un mauvais son. Le truc magique est tellement fort que même s'il n'y en a pas beaucoup, ça nous donne du gaz pour continuer. Mais le fait est que ce métier-là, on ne peut plus terre à terre dans son application de tous les jours.
Oui. Et là, tu touches à quelque chose qui est assez intéressant quand tu dis le truc magique, c'est qu'il y a de la magie dans la musique de Maginot. Je vais faire un petit jeu de mots, là. Il y a de la magie dans ta musique, puis il y a de la magie dans beaucoup de musique aussi, là, pas juste la scène, mais il y en a dans la tienne. Quand on écoute aussi, on ressent des choses très fortes, et c'est sûrement ces pistes-là que tu explores, toi. Ce que tu ressens, ce qui t'anime, tu veux le mettre là-dessus et ça prend forme finalement avec trois disques que tu as fait derrière toi puis qui témoignent de ça.
Ben, je pense qu'il faut soit faire rêver, soit faire réfléchir quand on fait de l'art. Puis je pense pas que j'ai ce qu'il faut pour faire réfléchir. Fait que mon autre option, c'est je pense que l'art et la musique doit être pas un échappatoire, parce qu'il ne faut pas le voir comme ça, mais doit être un espèce de répit de la vie de tous les jours, puis doit être plus magique, puis doit s'élever dans quelque chose de plus de moins dur, de moins plate, de moins cruel, de moins de tout ça. Fait que c'est ce que j'aime comme consommateur de musique, fait que c'est ce que j'essaie de reproduire, j'imagine, comme créateur de musique.
Consommateur de musique, on va en parler de ça aussi. La langue, tu as fait le choix d'une langue, puis je voyais dans un article à un moment donné où tu parlais justement d'une grande satisfaction que tu avais. Là, on t'écoute, on t'entend, puis on est Québécois comme moi, tu sais. Et t'as pas, donc, l'anglais est une autre langue pour toi, c'est pas ta langue première, très certainement pas. Mais tu as fait ce choix-là, et c'est encore là, c'est presque un choix artistique. Je lisais dans un article qui parlait de toi, là, où tu expliquais pourquoi tu écrivais en anglais, que c'est une belle recherche pour toi, c'est une langue que tu aimes beaucoup, la langue de Shakespeare, tout ça. Tu vantais la langue anglaise, et on n'a plus l'occasion d'entendre parler du choix de l'anglais de cette façon-là. Parle-moi-en donc un peu, voir. Qu'est-ce que ça représente d'écrire en anglais pour toi?
Bien, je pense qu'il y a plusieurs aspects où on dirait que des fois, je pense que c'est un choix, puis d'autres fois, je pense que c'est pas un choix du tout, dans la mesure où c'est ça, il y a plusieurs trucs. Là. Je pense qu'il faut pas, il faut avouer que l'anglais est une langue extrêmement plus facile à manier que le français en écriture artistique ou peu importe comment on l'appelle. Ouais. Je pense que le français pardonne beaucoup moins quand il est moins bien utilisé. Puis il y a clairement un aspect prudent dans tout ça. Okay. Après ça, c'est sûr que moi, tous mes rêves d'adolescent étaient en anglais parce que c'est une culture extrêmement puissante et extrêmement influente. Puis tous mes héros artistiques étaient la majorité étaient de langue anglaise. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand moi est venu le temps de, 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 de faire mon propre truc artistique, ben j'avais envie de, comme tout le monde, j'ai envie d'aller dans la direction de ceux qui m'ont fait rêver, puis ceux que j'admets, puis tout ça. Fait que c'est sûr que mon univers culturel puis mon univers artistique était extrêmement anglophone, autant dans les réalisateurs de films sur lesquels je trippais, la musique que j'écoutais, les livres que je lisais, c'était beaucoup en anglais. Fait que je pense que mon langage artistique s'est développé en anglais, mais c'est pas... C'est ça, je me suis pas dit en commençant, ça va être un projet anglophone, puis je me dis toujours pas ça. En fait, c'est pour l'instant, le projet est anglophone parce que les chansons qui ont sorti sont en anglais. Mais dès que je vais être capable d'écrire une chanson en français qui va pas me gêner moi-même, on va la sortir, c'est sûr, sur ça. Il y avait une chanson en français sur le premier disque, puis évidemment, c'est une de celles que je réécoute, puis je suis comme « ouf ». Ouf, que je suis moins sûr, là, fait que okay. j'ai pas envie que ça m'arrive trop souvent d'être un peu gêné par quelque chose que j'ai sorti, fait que je vais prendre mon temps avec le français.
C'est vrai qu'elle a un autre climat, c'est pas la même chose, mais en même temps, c'est autre chose. Puis
c'est autre chose. Aussi. Ben oui, puis je suis content d'avoir fait, puis c'est surtout que je l'ai pas forcé, cette chanson-là. Je l'ai écrite, puis je l'avais, puis je l'ai sortie. C'était pas « bon, là, ça me prend une chanson en français » ou « ça me prend quelque chose qui va pouvoir passer sur les radios parce que c'est en français ». J'ai pas envie d'embarquer dans cette dynamique-là, fait que je vais les laisser arriver si on arrive.
Le thème était toutefois réflexif, comme tous tes thèmes d'ailleurs, ça s'appelait le siècle bruyant.
Ouais.
Le siècle bruyant, c'est tiré de ton premier disque. Puis si tu permets, on va retourner vers le premier, puis on va parler courtement du premier, on va parler courtement du deuxième. Puis après ça, on va enchaîner avec ton plus récent Easy Morning, ton troisième disque en carrière, ouais. Puis okay. L'objet premier de l'entrevue, OK? Alors, le premier s'appelle comment? Il est sorti quand? Puis qu'est-ce que c'est ce disque-là?
Le premier s'appelle Young, Old, Everything in Between. Il est sorti en 2015, je crois. 2015-2014, je me souviens plus trop. Sur une étiquette de disque qui s'appelle Indica, qui est une étiquette de disque montréalaise, qui est la première étiquette avec qui j'ai signé à l'époque. C'est un premier disque, donc c'est une première tentative de faire quelque chose qui se tient un peu. Puis évidemment, comme c'est un premier disque, ça va ramasser toute la collection de chansons qui ont été écrites avant ça. Fait que c'est moins concis dans le temps, fait que probablement moins peut-être moins cohérent dans son ensemble. Surtout moi, ce disque-là, quand je l'ai fait, on n'avait pas commencé à faire des spectacles en groupe. J'avais jamais joué avec des musiciens. T'sais, les quelques spectacles que j'avais fait avant ça, c'était toujours en solo, juste guitare-voix puis tout. Fait que c'était vraiment d'apprivoiser c'est quoi jouer avec un batteur, c'est quoi jouer avec des musiciens. C'était beaucoup d'apprentissage, beaucoup de premières fois. Première fois à chanter dans un studio, c'est pas la même chose que chanter en live. C'était la première fois. Je l'aime beaucoup pour ce qui m'a permis. Ça a été mon premier pas dans le monde professionnel, dans les vraies tournées après ça, puis des gens après ça qui venaient me voir parce qu'ils avaient entendu le disque puis avaient envie d'entendre des chansons.
Oui,
c'était extrême. Bizarre. Fait,
la réception a été extrêmement positive. Moi, je l'ai acheté à ce moment-là, à la suite des différentes critiques que j'ai pu lire dans les journaux à ce moment-là. C'était excellent. Là. C'était vraiment un très bon commentaire.
Ouais. Je sais pas, ça fait des années que je n'ai pas réécouté ça. C'est sûr que si je le réécoutais, je serais un peu malaisé, comme on dit, mais je pense qu'il faut. Okay. Ben, on dirait que je le regarde avec plus de de tendresse que de fierté, disons. Là. Je suis plus comme « Ah, c'est cute, t'as essayé de faire un disque. »
C'est beau ce que tu dis.
Mais il y a quelques chansons, il y a deux chansons qui, à ce jour, on joue encore en spectacle. Les autres, je sais plus trop. Il faudrait que je les réécoute. J'ai plus trop d'opinions sur le disque.
Lesquelles tu joues encore?
On joue Still Alive en spectacle, puis Monsters at War. Something is so wrong. This is only war. We'll never win. 'Cause we'll always be as we were made. Fragile, weak, and small, and overrated most of the time. So don't care. Mais oui, il faudrait que je le réécoute un de ces jours pour voir ce qu'il y en est. Mais je suis vraiment juste. Reconnaissant que ce disque-là m'ait permis d'en faire un deuxième, m'ait permis de tourner beaucoup puis dans plein d'endroits. Fait que je n'ai que des bons mots pour les gens qui m'ont permis de faire ce disque-là.
OK, oui, puis ça, c'est une chose. Tu parles de reconnaissance, tout ça, et c'est pas croyable comment toi, tu es reconnaissant. On lit, tu l'écris d'ailleurs dans tes pochettes, et à lire ce qui est écrit là, tu remets tout le crédit aux gens qui travaillent avec toi. C'est comme si tu dis, ce disque-là, il est rendu possible à cause de cette équipe-là formidable de gens qui sont... Et tout le monde est nommé, là. Tu sais, c'est une page au complet avec... il y a peut-être 35 noms, là. Tu sais, c'est vraiment tout le monde est nommé. C'est vraiment...
Ben, c'est 100% vrai. Non, c'est vraiment pas de la fausse modestie. C'est juste un fait de la vie que si j'étais juste moi tout seul, il y aurait pas... Ce disque-là n'aurait pas été possible.
Ouais.
Il faut le reconnaître, il faut s'en rappeler parce que sinon on se met à surestimer ses propres capacités. Puis c'est là qu'on devient nul. C'est quand on pense qu'on est capable de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire dans les faits. Il faut se rappeler que nos talents sont très limités et qu'on a besoin du talent des autres pour shiner.
Le travail d'équipe, hein? Travail d'équipe, la nécessité des autres, le lien avec les autres. Encore là, on parle des relations humaines, un thème qui était particulièrement important. Deuxième disque.
Ouais, deuxième disque qui s'appelle Comrades, qu'on a sorti en 2018, si je ne m'abuse, avec une autre étiquette, avec Audiogramme.
Audiogramme, ben oui, ça c'est quelque chose, wow.
Ouais, ça a été cool. Ça a été un peu compliqué entre les deux disques, il y a eu de la... Pas de la bisbille, mais des petites complications.
C'est sûr.
Complications de business. Donc, ça a fait que ça a retardé. En fait, on a enregistré l'album trois fois. Il y a eu beaucoup de réenregistrements, de changements de changement d'équipe, de changement de direction, puis tout. Jusqu'à temps que c'est ça, que je tombe sur un gars qui s'appelle Connor Seidel, que en fait, on me l'a présenté parce que lui travaillait beaucoup avec Matt Lebowski, qui était aussi signé chez Audiogramme. Puis c'était en fait son grand ami depuis longtemps, puis ils ont toujours travaillé ensemble, puis on cherchait quelqu'un pour... J'étais un petit peu perdu là, dans quoi faire avec ça. J'avais plein de maquettes, plein de versions différentes des chansons que je n'étais plus trop sûr de la pertinence de ça ou de la direction. Puis j'avais plus de... J'étais trop collé dedans, j'avais plus... Puis que Connor est arrivé, puis ça a vraiment été un... Ça a vraiment été une de ces rencontres là, qui change une vie, ou qui change... Ouais, carrément, puis il a repris les rênes de ça, puis on a fini par tout. En fait, lui devait prendre ce qu'on avait déjà puis essayer d'organiser ça avec moi. Puis finalement, on a juste tout mis ça à la poubelle pour on a recommencé à zéro. Puis on a fait ce disque-là ensemble. J'en garde un souvenir assez merveilleux. On a fait ça en plein été à Montréal, puis avec mes musiciens. Fait que c'est un grand album de camaraderie, encore une fois. Il y a plein de mes amis qui sont venus chanter aussi. J'ai plein évidemment, je me signe juste avec des musiciens. Fait que j'ai plein d'amis chanteuses qui sont venus faire une grosse chorale sur des chansons. Puis... There's a ghost in the back, in the snow that won't come. And if you can't...
Thank you. pas un peu ce que tu es en train de décrire? Un paquet de gens qui se sont rapprochés parce que, hey, c'est Elliot qui sort son disque, on veut être dessus, puis pas des voix, tu sais.
Ben, je pense que c'était un gros prétexte pour passer du temps ensemble. T'sais, ils sont venus en studio, puis après ça, ça a été le gros party, puis on a mangé des sushis, puis on a bu du vin, puis... Mais je pense que c'est beaucoup à ça que ça sert, la musique aussi, là, c'est de créer des rapprochements. Sinon, tout ce qu'on fait quand on se voit, c'est manger puis boire dans la vie. Là. C'est rendu nos seuls prétextes pour se rassembler. Fait que des fois, ça peut être... c'est bien de... C'est surtout que... une fois de temps en temps, il faut se rappeler à quel point on a accès à un... après un certain nombre d'années, tous tes amis sont des musiciens. Puis ça fait que tu as accès à un bassin de talents incroyable. Tu as plein de gens de qui t'es très proche qui ont des talents incroyables. Puis tu peux, sur appel, faire comme « Hey, venez, on va faire ça. » Puis tu as accès à des ressources puis à des talents qui valent très cher dans la vie, qui coûteraient très cher à acheter si ce n'était pas des amis. Fait que,
oui, tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que ça parle aussi de ta façon de voir le métier. Alors, encore une fois, tu parles du métier d'une façon très down to earth, tu es très terre à terre dans ta façon de parler des relations, parce qu'encore là, c'est des artistes dont tu parles. Mm-hmm. Des artistes, pour la plupart des gens, c'est un peu intouchable, c'est des gens qui sont seuls sur leur tour, tu vois. C'est pas ton cas du tout, t'es pas du tout ça. Et ça m'amène à te demander de qualifier un peu ton rapport avec les autres musiciens. Il faut être leader un peu pour générer tout cet intérêt-là autour de sa production, quel que soit le style de musique qu'on fait. Et toi, tu as vraiment une petite communauté. Là, ton album, d'ailleurs, s'appelle Comrades. C'est un jeu de mots avec camarade, hein, je pense.
Certainement.
Camaraderie, tu disais tout à l'heure. Alors, est-ce que ça définit ton leadership, la camaraderie? Est-ce que c'est comme ça que
ben tu... oui, ben oui, ben oui. Il faut... premièrement, il faut s'entourer puis travailler avec des gens avec qui tu serais très proche, même si c'était pas des collègues de travail. Dans le sens qu'il faut travailler avec des gens qui sont tes amis. Sinon, il y a pas de... Moi, je pense que c'est pas possible à long terme de juste travailler avec des gens qui sont avec lesquels tu as une relation employeur-employé. Je pense que c'est juste pas possible. Après ça, je pense que le secret aussi, c'est de jamais parler d'argent avec ces gens-là. Il faut laisser l'argent dans la cour des adultes. Puis que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est jouer de la musique puis être des amis ensemble. Puis pour l'instant, ça marche très bien. Il n'y a absolument pas de... Puis il faut, je pense qu'il faut aussi... il faut, je ne sais pas, j'ai pas de recette, mais il faut tenir ton bout quand tu penses que ton idée est la meilleure, mais il faut vite reconnaître quand ton idée n'est pas la meilleure puis quand quelqu'un a une meilleure idée que toi. Puis comme ça fait que tout le monde se sent respecté. Moi, je me sens respecté. Les gens savent que leur avis est important, que je le considère, et vice-versa. Puis ça m'aide. Tu sais, moi, j'ai un gros complexe aussi de pas être un musicien formé puis d'avoir beaucoup de lacunes en théorie puis même en technique puis tout. Fait que je pourrais vite me sentir inférieur par rapport à des vrais musiciens avec qui je joue puis tout. Puis fait que c'est important d'avoir une relation de respect puis d'admiration mutuelle. Puis pour l'instant, c'est assez facile à entretenir avec les gens avec qui je joue.
Right.
Vous écoutez Vos désirs sont des ondes sur la plateforme Ondes à part, une web diffusion réalisée et animée par Jean Gagnon-Doré.